Première journée, toujours les petits soucis de dernière minute, les choses à régler. Normalement, les modératrices et modérateurs ne devraient pas en plus s'occuper d'autres fonctions, mais bon, voilà, c'est aussi un festival à échelle humaine. Et ça fait partie des petites choses que parfois on peut avoir, qui vous privent de quelques minutes, mais on va très vite se rattraper. On va donc accueillir David Anthony Durham, un des grands auteurs de la fantasy américaine contemporaine. Merci, David Anthony Durham. Bon, Heyerdahl, je crois qu'il s'est déjà présenté, vous le connaissez, je crois que sa réputation le précède et le suit. Et Stéphane Baudergé, je crois reconnaître, puisqu'il est en plus en photo dans le journal aujourd'hui, avec une belle interview que vous pourrez, puisque le journal est distribué gratuitement sur le festival, n'hésitez pas, c'est une occasion de découvrir, ceux qui ne sont pas des coins, Vosges Matin. Bien, puisque vous savez que Vosges Matin et le groupe Est Républicain sont nos partenaires pour cette opération. 10 ans déjà, 11e édition, et malheureusement, le mal rôde toujours, peu aux imaginales, mais dans le monde qui nous entoure. Et le mal est parfois représenté par des tueurs. Alors, rassurez-vous, il n'y en a pas autour de moi, je suis plus ample informé, sur cette estrade, mais en revanche, dans leurs romans, il y en a beaucoup. Je salue aussi Jean-Philippe Jaworski, qui n'est pas là, malheureusement, il enseigne, il était prévu, et puis, ben voilà, il n'a pas pu se libérer aujourd'hui, il sera là dans l'après-midi, et donc on le découvrira dans d'autres, c'est dommage, j'en dis juste 30 secondes, et puis après on oublie. Jean-Philippe Jaworski, auteur de deux ouvrages, un recueil de nouvelles tout d'abord, qui l'a fait connaître, recueil de nouvelles qui présentait son monde déjà de fantaisie, et puis son grand roman, premier roman totalement maîtrisé, « Gagner la guerre », qui lui a valu d'être le coup de cœur des Imaginales en 2009, qui lui a valu d'emporter le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy, et qui lui a permis, comme le premier, d'être réédité. Il s'était publié initialement Mouton électrique, petite maison lyonnaise, de qualité, et qui a été ensuite réédité dans la collection Folio SF de chez Gallimard. D'après mes informations, l'édition Folio, en moins d'un an, a déjà dépassé les 12 000 exemplaires. Et c'est parti, comme d'autres romans d'ailleurs, on en dira un mot, de Stéphane Beauverger. Il y a encore des beaux succès, des beaux chiffres de vente pour des auteurs français de qualité. Et ça nous rassure dans une période pas toujours facile pour le livre et la littérature. On en restera donc là, mais tueur de fiction, la voix narrative du personnage principal de Gagner la guerre, c'est lui l'assassin, c'est lui le tueur. Vous connaissez, ceux qui ne l'ont pas lu, ceux qui l'ont lu, vous connaissez, les autres, je ne sais pas. Vous avez donc ce tueur en série, mais qui est un professionnel, donc en fait, il ne tue que sur ordre et parce qu'il a une mission. Il nous paraît presque sympathique, ce salopard, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il est au service de possédants, il est au service de politique. Or, ils sont pires que le tueur à gages qui exécute les missions. Donc finalement, il en paraît très presque sympathique dans l'univers qui nous est décrit par ses yeux. Et évidemment, il a cette voix, cette gouaille. Quand on connaît Jean-Philippe Jaworski, distingué agrégé de lettres d'un lycée du centre-ville de Nancy, et qu'on voit son personnage, on se dit l'écrivain est toujours schizophrène. En tout cas, c'est l'explication la plus rassurante. L'autre est trop abominable pour qu'on l'évoque. Pensons donc que l'écrivain n'est pas évidemment le personnage qu'il imagine et qu'il parle par la voix du narrateur. J'oublie Jean-Philippe Jaworski, mais si vous n'avez pas lu Gagner la guerre, c'est vraiment l'occasion, il sera là à partir de cet après-midi pour le signer. Maintenant, voyons ceux qui sont là, les auteurs présents. Donc David Anthony Durham a commencé sa carrière aux États-Unis par une série de romans historiques, et puis il s'est lancé dans la fantasy, et on découvre maintenant en France la qualité de son travail avec Acacia, deux mots, un univers, un empire qui se présente plus ou moins de façon morale, qui néanmoins réduit plus ou moins en domination, en esclavage des royaumes proches et des pays proches. Des gens, évidemment, ont des comptes à régler. Il y a un royaume qui a l'intention de revenir en force. Et on va découvrir, au début, il va y avoir un assassinat, j'en dis pas plus, que je ne vais pas révéler, évidemment, l'histoire. L'empire va être ébranlé. Les enfants du roi vont devoir faire des choix qu'on va suivre au cours des 3 volumes. Et puis, toute une série de personnages vont nous entraîner dans une vraie quête à la reconstruction d'un empire abîmé ou détruit. Ça, vous le découvrirez dans le livre. Et ce qui est intéressant dans Acacia, je le disais hier déjà, c'est sans doute pas par hasard, Acacia est un roman où l'empire, qui a ses qualités, qui donne une stabilité à ses concitoyens, même s'il y a un prix à payer d'important, repose aussi sur, on le découvre assez vite, le trafic de drogue, et il repose aussi sur l'esclavage. Je pense que le fait que David Attenborough soit afro-américain n'est évidemment pas un hasard dans ces éléments particuliers de sa fantaisie, fantaisie qui s'inscrit dans la fantaisie classique d'action avec beaucoup de passion, mais aussi des choses originales et personnelles qui font que c'est un plus par rapport à la production courante qu'on peut voir aux États-Unis. Heyerdahl, c'est une autre affaire. Heyerdahl, on l'a qualifié comme il était beaucoup plus jeune d'enfant terrible de la science-fiction française. Il a commencé quand même aussi par quelques romans et en particulier une belle anthologie qui a montré qu'il y avait une vivacité, un renouveau de la littérature française imaginaire. Heyerdahl n'a pas hésité à aborder des thèmes qui étaient peu courants, peu abordés. Il a parlé politique, mais en racontant des histoires. Et ça, ça fait que, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'il pense et ce qu'il dit, ou ce que disent ces personnages, alors ça s'entraîner par l'histoire, c'est ce qu'on a demandé toujours à un romancier, c'est ce qu'on lui demande et c'est ce qu'il est capable de faire. Beaucoup de space opéra. Le space opéra avait la réputation, à part dans les années 50-60, parfois au fleuve, d'être américain, anglais, canadien, tout ce que vous voulez, mais pas français. Or, il y a du bon space opéra français. Et Heyerdahl l'a prouvé. Je vois entre autres l'Histrion, qui est un des romans qu'il a fait découvrir et apprécier d'un large public, et de la critique. Dans l'Histrion et d'autres comme Sexomorphose, il n'a pas hésité à présenter des personnages qu'on pourrait qualifier de transgenres, je dirais tout simplement. Et il faut dire qu'il y a 20 ans, dans un roman français, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu. Évidemment, c'est quelque chose qui m'a surprise à l'époque, où les choses n'étaient pas évidentes à dire et à faire en France. Et puis, la question du pouvoir. On va y revenir, la violence, d'où les tueurs de fiction, et particulièrement son avant-dernier roman, Transparence, et puis le suivant dont il dira un mot aussi, Résurgence, qui mettent en scène une tueuse. Et paradoxalement, là aussi, un peu comme Jaworski, dans un monde complètement différent, plus proche de l'anticipation à court terme, un personnage, je crois, qui, en quelque sorte, nous montre que parfois, le tueur ou la tueuse, en l'occurrence, peut avoir des excuses, ou en tout cas, peut être plus sympathique que parfois les gens qu'elle exécute. On y reviendra sur la question du rapport à la violence. Et puis Stéphane Beauverger, alors là on va aller très vite parce que son dernier roman qui vient d'avoir le prix Imaginal des lycéens, bah, ce dernier roman, le Décronologue, c'est un vrai roman de science-fiction. C'est un vrai roman où il y a une histoire temporelle, un paradoxe temporel quelque part. C'est une vraie histoire de science-fiction, mais c'est aussi une vraie histoire de pirates. Alors évidemment, les pirates ne sont pas toujours des gens qui règlent les problèmes de façon distinguée et mondaine. Ils ont d'autres façons plus expéditives. Et c'est autour d'un capitaine de pirates et de ses complices que le roman s'articule, le roman qui se balade dans la temporalité entre le 17e et d'autres moments. Je ne veux pas vous révéler parce que ce serait vous gâcher le plaisir du public. Voilà. Donc, beaucoup de tueurs dans les romans de nos trois amis. Et loin d'être horrifié, on y prend beaucoup de plaisir. Heyerdahl, pour commencer avec vous. Quel est le rapport entre les tueurs et le pouvoir ?
Le rapport entre les tueurs et le pouvoir, je crois que le plus évident qu'on connaisse, d'un point de vue historique, c'est le rôle de second ou de troisième couteau, pardon, de deuxième ou de troisième couteau. Ce sont les gens qui sont les exécuteurs des bases œuvres. Donc vous avez tous compris, les êtres humains sont des bases œuvres. L'assassin et l'exécutant, voilà. Le pouvoir a des milliers de façons de s'exprimer et de perdurer, mais la plus efficace, la mieux maîtrisée, celle qu'on connaît depuis très longtemps, consiste à se débarrasser de ses ennemis politiques. On va s'arrêter à ça, politique. Mais c'est pratiquement une évidence, quoi. Et puis en face de ça, il y a les contre-pouvoirs, où il y a les gens qui souffrent du pouvoir, qui peuvent être amenés eux aussi, soit à se constituer en tant que rebelles ou révoltés, un groupe d'assassins, parce que quand on prend les armes face à des soldats, on tue des soldats, donc on devient soi-même un assassin, soit à être épaulé, comme c'est arrivé dans certains endroits, par des groupes armés qui deviennent de véritables exécuteurs des bases œuvres aussi. C'est assez rigolo.
Stéphane Beauverger, est-ce que quand on est pirate, on est automatiquement un assassin, ou est-ce que les assassins sont le pouvoir que combattent parfois ces hommes libres qui peuvent être pirates et filibustiers ?
Dans le cadre précis de la piraterie, oui, les pirates sont des assassins par définition. Gagner leur liberté signifiait généralement tuer les officiers du navire sur lequel ils étaient. Historiquement, il y a eu très très peu de navires pirates qui se sont constitués sans qu'il y ait eu une mutinerie. Mutinerie, par définition, ça va signifier se débarrasser d'un certain nombre de supérieurs. Et ensuite, on a aussi le cas identifié, reconnu, de navires pirates capturant des bateaux et vérifiant, eux, en tant qu'hommes libres, auprès des marins, si l'équipage avait été bien traité. S'il avait été bien traité, on pouvait éventuellement simplement se débarrasser des officiers sur une barque, les marronner, comme on disait, être fait marron. Si par contre il s'avérait qu'il y a eu des brutalités, des sanctions excessives, on allait s'amuser un petit peu à les torturer bien comme il faut. Petite anecdote, le fameux supplice de la planche est une invention hollywoodienne. Ça n'est sans doute jamais arrivé. Par contre, ils avaient trouvé des choses beaucoup plus amusantes, comme faire passer une corde entre les côtes et puis pendre la personne et attendre qu'elle saigne jusqu'à mort. Donc, il y avait aussi une dimension frapper les esprits. On ne peut pas dire que c'est de l'assassinat politique, mais c'était, en tout cas, au nom d'un certain principe de liberté, et ils n'ont jamais hésité à tuer, voire même, c'est ce que je disais hier à certains des élèves que j'ai rencontrés, voire même eux, en tant qu'anciens esclaves, capturer des gens et en faire eux-mêmes des esclaves. Donc, c'est aussi une sorte de meurtre à petit feu.
Eh bien, ça commence bien. Petit extrait. David Anthony Durham, Acacia, le tome 1, La guerre du Maine. L'assassin se glissa entre les battants de pain massif de la porte principale et quitta la forteresse de Tahalian. Il partit au lever du soleil, sous la vêture commune d'un soldat du Maine. Il était enveloppé dans une cape en peau d'élan. Elle recouvrait ses jambes et réchauffait sa robuste monture. Sur son torse était sanglé un plastron constitué de deux carapaces de fer moulées, en serrant une couche de fourrure de loutre. Il prit la direction du sud, dans un paysage scintillant de gel. Le froid de l'hiver était si mordant que pendant les premiers jours, le souffle de l'homme se cristallisait au sortir de ses lèvres. La vapeur formait une protubérance étrange autour de sa bouche, comme un tunnel éphémère. Des nœuds de glace pendaient à sa barbe et se heurtaient tels des carillons de verre. Il ne croisa presque personne, même quand il traversa des villages d'habitation basse, aux toits en forme de coupole. Il aperçut des traces de renards blancs et de lièvres, mais vit très peu d'animaux. Une seule fois, un lynx l'observa depuis un rocher, l'air de ne savoir s'il devait fuir ce cavalier ou lui donner la chasse. Finalement, il resta immobile, et l'homme le laissa derrière lui. Plus tard, il accéda au sommet d'une colline et contempla un rassemblement de rennes dans la plaine en contrebas. C'était un spectacle rare. Tout d'abord, il crut se trouver en présence d'une assemblée du monde des esprits. Puis il sentit l'odeur musquée des animaux, ce qui brisa toute ambiance de mystère. Il passa au milieu d'eux et goûta un plaisir simple à les voir s'écarter devant lui dans un grondement de sabots qui résonna jusqu'au tréfonds de sa poitrine. Si les terres du Maine avaient appartenu à ses habitants, il aurait pu chasser ces animaux comme ses ancêtres l'avaient fait. Mais la réalité était tout autre. La race des hommes appelée Maine, sur les hauts plateaux du même nom, avec la grande forteresse de Tahalian, cette lignée royale qui aurait dû régner sans partage sur ce territoire, tous étaient les serviteurs d'Acacia depuis maintenant 500 ans. Après avoir été vaincus et massacrés en grand nombre, ils avaient dû plier les chines sous le joug des gouverneurs étrangers. On les avait écrasés sous des impôts indus, on leur avait volé leurs guerriers, beaucoup d'entre eux servaient dans les rangs des armées acaciennes, en des contrées lointaines, hors de portée des voix de leurs ancêtres. C'est du moins ainsi que le cavalier voyait les choses, une injustice qui ne pouvait durer éternellement. Voilà, l'ouverture d'Acacia, vous voyez, hein, assassin, tueur de fiction, dès la première ligne, l'assassin, etc. Et voilà, on est au cœur. Ça démarre donc par un assassin qui part, et on le devine tout de suite, il part vers sa mission. Mais on sent bien, puisqu'il est un représentant d'un peuple opprimé, il dénonce le responsable, en tout cas tel qu'il le voit, Acacia, et sans savoir encore quelle est sa cible, on devine que sa cible, évidemment, c'est Acacia, dans l'Empire. Pourquoi ce choix d'Alain Anthony Durham de démarrer par la mise en scène d'un assassin qui va frapper?
euh,
I wanted to start this. So much of the novel is from the perspective of the royal family that he is going to affect. But instead of starting it with the royal children in peace and prosperity in their palace, I wanted to open it with the introduction of the danger that is heading down to set in motion all of the cataclysmic events of the novel.
Alors, il y a une grande part du roman, la plus grande partie du roman, qui est expliquée du point de vue, qui est écrite du point de vue de la famille royale. Alors, j'ai eu envie de ne pas commencer par les enfants royaux qui vivent dans la paix et la prospérité avant de devoir affronter des événements cataclysmiques. Donc, j'ai eu envie justement de démarrer sur cette note de danger qui est au point de départ, que c'était au point de départ de tous les événements qui vont se dérouler ensuite dans la trilogie.
And this character, he does represent his people and the long-standing subjugation they've been under that they're rebelling against. But also, he is the youngest brother of three. So there's a personal aspect to this too, that his other brothers are gifted at particular things that he isn't. So this is a personal mission for him as well. He thinks that if he kills the person he's setting out to kill, he can change history in a way that he doesn't otherwise have the power to. So that's the journey he's on as well, to secure his place in history.
Alors, j'ai eu envie d'expliquer en fait qu'il représente les siens. C'est un personnage qui représente un peuple, tout un peuple opprimé. Il est le plus jeune de trois frères, et ses frères ont des talents que lui n'a pas. Et donc il a cette mission qu'il a acceptée de tuer sa cible. Et s'il réussit à tuer sa cible, il va modifier le cours de l'histoire, et c'est ainsi qu'il va occuper sa place dans l'histoire.
And he starts off a lot of chaos.
Et il va donner lieu à une série d'événements vraiment chaotiques et cataclysmiques.
Après Acacia, après le tueur qui s'apprête à frapper un grand coup et à bouleverser l'équilibre d'Acacia, on va revenir ou passer du côté des pirates. À bord du Déchronologue, après la débâcle, circa 1653. Je suis le capitaine Henri Villon et je mourrai bientôt. Non, ne ricanez pas en lisant cette sentencieuse présentation. N'est-ce pas l'ultime privilège d'un condamné d'annoncer son trépas comme il l'entend ? C'est mon droit. Et si vous ne me l'accordez pas, alors disons que je le prends. Quant à celles et ceux qui liront mon récit jusqu'au bout, j'espère qu'ils sauront pardonner un peu de mon impertinence et, à l'instant de refermer ces chroniques, m'accorder leur indulgence. D'ici quelques minutes, une poignée d'heures tout au plus, les forces contre lesquelles je me suis battu en auront définitivement terminé avec moi et ceux qui m'ont suivi dans cette folle aventure. J'ai échoué et je vais mourir. Ma frégate n'est plus qu'une épave percée de part en part, au pont encombré par les cris des mourants, aux coursives déjà noircies par les flammes. Ce n'est ni le premier bâtiment que je perds, ni le premier naufrage que j'affronte, mais je sais que nul ne saurait survivre à la dévastation qui s'approche. Bientôt, pour témoigner de l'épopée de ce navire et de son équipage, ne resteront que les pages de ce journal. Permettez donc que je prenne un peu de temps qu'il me reste pour les présenter comme je l'entends. Je me nomme Henri Villon et je suis l'unique capitaine de la merveille baptisée des chronologues. Il s'agit de mon véritable patronyme. Je me dois de le préciser tant il est courant d'en changer parmi les gens qui embrassent ma profession de coureur d'océan et de fortune. Français je fus, davantage par défaut que par désir, et cette nationalité que je n'ai pas choisie ne m'a guère été d'un grand secours sur une mer caraïbe où les drapeaux feront toujours office de linceul pour les crédules et les exaltés. Pour des raisons d'honnêteté et de circonstances qui se révéleront ultérieurement, je ne saurais donner mon âge avec certitude, mais je peux dire que je suis né en la belle et éruptive terre de Saint-Onge au printemps de l'an 1599. Si j'en crois le décompte des jours notés dans un carnet qui ne quitte jamais ma poche, il semblerait que j'ai vécu environ un demi-siècle. Disons que c'est un nombre qui me convient. À propos de mes parents et de mon enfant, je ne dirai pas grand-chose, tant le sujet serait vite tari. Mais je préciserai tout de même que je grandis dans une famille suffisamment aisée pour qu'elle m'espérât une belle carrière de négociant ou d'officier, au terme d'une éducation solide qui sut, peut-être pour mon plus grand malheur, m'éveiller à la lecture des beaux textes et des grands esprits. En cette province instable, enfiévée par les querelles de foi, je crois que je n'avais été ni plus ni moins qu'un enfant de mon siècle, modelé à l'image de mes proches, pur et formé, vaillant défenseur du parti protestant. Si j'étais né plus tôt, lorsque l'Aquitaine constituait encore un des plus beaux joyaux de la couronne d'Outre-Manche, j'aurais aussi bien pu me découvrir anglais et me faire mieux accueillir dans les ports fidèles à Charles Ier que dans ceux se réclamant de Louis XIII. Mais les hoquets d'histoire et le courroux des rois m'avaient fait naître sujet de la couronne de France. Je peux avouer aujourd'hui que je n'ai jamais, au gré de mes rencontres, accordé à ces questions de frontières plus d'importance que ne me le dicta la prudence. Voilà un tueur qui, au départ, apparaît un esprit libre plutôt sympathique, Stéphane Beauverger.
En fait, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de créer un personnage de capitaine pirate qui était aussi un lettré, et ça correspond à la réalité de ce qui n'est pas encore la piraterie, mais qui est la flibusterie du XVIIe siècle. On a l'habitude, nous, via le cinéma, d'avoir affaire à la piraterie du XVIIIe, mais au XVIIe siècle, ce sont des capitaines indépendants, souvent des protestants, qui se rendent dans les Caraïbes pour faire fortune, pour affronter la chienlit catholique, comme ils le disent eux-mêmes, et qui sont donc des gens qui sont issus au moins du tissu bourgeois, sinon de la noblesse. Il faut de l'argent pour capturer ou pour affréter un navire et pour tenter de faire fortune. Donc ce ne sont pas encore des gens qui se considèrent apatrides, ce ne sont pas encore des pirates tels qu'on l'imaginera et tels qu'ils se révéleront quelques décennies plus tard. Mais par contre, oui, c'est un personnage qui va tuer, a déjà tué à La Rochelle. S'est déjà battu, le fera encore, et grâce à ses textes, comme il le dit, peut-être pour son plus grand malheur, ça lui a donné la possibilité de réfléchir à la notion d'assassinat, à la notion d'être un tueur, d'être un meurtrier, et ça le secoue suffisamment pour avoir envie de trouver une forme de salut de l'autre bout du monde, dans les Caraïbes.
Quel est le rapport dans votre roman du personnage principal et de ces hommes, ce capitaine pirate, ce rapport à la violence, justement? Est-ce que lui se vit comme un tueur, ou quelque part, vu les gens qui l'affrontent, qui sont face à lui, il se considère autrement?
Je pense qu'il se considère comme un tueur. Il sait que c'est un tueur. C'est un assassin. Il n'en est pas forcément fier, mais il fait le travail. Il a en plus la responsabilité d'un équipage. Il ne faut pas oublier que si l'équipage n'est pas satisfait du statut du commandant, il est capable de le débarquer et d'en nommer un autre. Donc il est au premier chef responsable de la direction et de la bonne fortune de son navire. Et s'il ne trouve pas rapidement ou régulièrement des navires à piller, il sent qu'il y a grogne à bord du bateau. Donc la mort fait partie de son travail. Fait partie de sa mission, de son rôle de capitaine. Et ça correspond à la réalité de l'époque, c'est-à-dire que ils sont leur univers, leur territoire s'arrête aux frontières de ce navire. Tout autour d'eux, il n'y a qu'hostilité, hostilité espagnole, hostilité de la mer. Ils sont tout le temps en combat, et dans cette relation au combat, il y a forcément l'acceptation de la mort, la sienne ou celle des autres.
On a vu dans le premier roman, et même qui était les premières lignes du roman de David Anthony Durham, l'assassin se mettre en marche pour aller frapper sa cible. Un peu plus loin dans le roman, on est encore qu'à la page 80, donc je ne vais pas révéler beaucoup de choses, je vais vous lire un autre petit extrait. On est confronté à un autre personnage, un militaire, un chef de guerre qui va affronter l'ennemi. Le plus grand choc avait été l'apparition de l'ennemi quand sa masse déchaînée, agitant épée et hache, avait percuté les acacias immobiles. C'étaient des guerriers énormes, aux membres longs, dotés d'une puissance effrayante. Lyca vit dans leur attitude un plaisir à tuer qu'il n'aurait jamais cru possible. Ils ôtaient la vie avec une joie presque enfantine. Comme quand un gamin muni d'une épée en bois fait mine de toucher son camarade au bras, aux jambes et à la tête, et qu'ensuite il lève le poing en signe de victoire, ravi des blessures qu'il s'imagine avoir infligées. De la même façon, ces êtres tranchaient les membres avec délectation, tournoyaient sur eux-mêmes pour asséner des coups monstrueux qui toujours trouvaient leur cible, et se félicitaient pour chacune de leurs victimes. Derrière leurs longs cheveux emmêlés, on apercevait des visages pâles comme la neige. Lika aurait voulu en regarder un au fond des yeux, mais on n'en eut pas l'occasion. Il tenta de se remémorer les ordres qu'il avait donnés. Il essaya en vain d'agencer l'intégralité du massacre dans une continuité logique et se demanda s'il avait seulement eu le temps de commander ses hommes avant que le carnage ne prenne fin. Il n'avait rien eu d'autre que la charge furieuse de l'ennemi, les piétinements, ses soldats qui mouraient, le sang giclant partout, les membres volant dans la neige souillée d'écarlate, les corps pareils à des poupées de chiffon, éparpillés dans des postures que nul être vivant ne serait capable d'adopter. Pas un instant l'ennemi ne sembla se soucier de sa propre vie. Rien ne touchait ces monstres, rien ne les effrayait, et les ravages qu'ils faisaient dans les rangs des soldats de Lika n'étaient pour eux qu'un moment de jeu intense. C'est quoi ces combattants des machines de guerre? Des militaires professionnels? Des créatures venues de l'enfer? Qu'affronte le général des armées d'Acacia qui semble terrifié tellement?
Yes, he's being an enemy he never knew existed before, and exactly who they are and what they are and what created them and why they're invading the known world. It took me 3 novels to figure out. So that is the arc of the trilogy.
Oui, alors il se trouve confronté à un ennemi qu'il ne connaît pas, il ne sait pas qui ils sont et pourquoi ils viennent essayer d'envahir le monde connu. Mais ça, c'est l'arc de la trilogie, parce qu'il faut vraiment avoir lu toute la trilogie pour découvrir qui ils sont vraiment.
In a way, I'm aware that the conflicts of this of these books are often between people who are playing by the rules and people who disregard the rules. In this case, Lika, as a soldier, I think would think that he's playing by the fair rules of warfare, and that these invaders have more of the assassin role in this. They've come out of nowhere and attacked completely unexpectedly and unannounced, which is what the characters I think of as assassins in this frequently do.
C'est ce qui produit dans ce genre de conflit. En fait, il y a des conflits entre ceux qui suivent les règles de la guerre et ceux qui ne les suivent pas. Et pour Lika, lui, il est soldat, il applique les règles de la guerre. Mais ici, il sera confronté avec une troupe d'ennemis qui n'applique pas les règles de la guerre et des ennemis qui sont survenus comme ça sans prévenir. Et moi, je pense que, en fait, c'était ça qui était intéressant de voir dans cette partie du roman, de traiter dans cette partie du roman, c'était ceux qui suivent les règles et ceux qui ne suivent pas les règles.
And one, I guess, one last thing on that. There is another character, Hanish Mim, who is leading the invading force. And when the two armies meet for the first time, the side he's attacking thinks they're going to go to war in a couple of days. They're going to fight again by the rules of warfare. Hanish Mim to me becomes an assassin because he has an entirely different plan. He has a weapon that he is going to unleash that's completely unexpected and is not what the army facing him is expecting. But he unleashes it because what matters to him is winning. And he has something, a tool that he can use. It's the tool of an assassin, though.
Alors c'est ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que l'envahisseur, le leader des envahisseurs, Hanish Mim, il va commencer par faire la guerre en appliquant les codes, mais il va sortir une arme que personne ne se doute existe, et cette arme fera de lui l'assassin. Donc c'est une arme qui est vraiment inconnue et qui va sortir comme ça et qui va créer la surprise. Donc l'idée ici, c'était pour lui, à Nietzsche, le but du jeu, c'est de gagner. C'est vraiment de gagner. Donc, il va utiliser cette arme dans le but de gagner. Et il n'appliquera pas les codes de la guerre, de l'art de la guerre.
Dans cet univers d'Acacia, je le disais au début dans ma présentation, vous brossez un empire. Vous venez des États-Unis. On parle parfois d'empire dans les autres pays du monde. Vous y mettez une domination. Bon, là, on est dans un monde féodal et non pas, évidemment, le monde d'aujourd'hui. On est dans la fantasy. Et ce monde assoit son pouvoir, on l'a dit, entre autres par l'esclavage, par ce nombre de moyens qu'on va voir assez vite. Je ne vais pas dire plus parce qu'on découvrirait trop la suite. Et dans ce monde qui a provoqué beaucoup d'injustices, c'est la force qui tient la structure. Et c'est d'autres forces qui vont la bousculer. Est-ce que finalement, quand on règne par la violence, pour reprendre de célèbres textes historiques, est-ce qu'on n'est pas, si on frappe par la vie par l'épée, est-ce qu'on n'est pas quelque part amené à être frappé soi-même par l'épée? Est-ce que quand on règne par la violence dans un empire, est-ce qu'on n'est pas finalement menacé de la colère des peuples qu'on a asservis, voire de son propre peuple? Est-ce que c'est pas aussi ce thème-là qu'on trouve dans votre fantaisie, qui en fait une fantaisie d'action, une fantaisie passionnante, une fantaisie d'aventure, mais par d'autres lignes narratrices aussi, une fantaisie qui réfléchit sur le pouvoir et sur la morale?
Yes. Very much so. Acacia, to me, it's not quite America. But I was very aware that I wanted to, in a way, to write about personal responsibility. The main characters in this are four siblings who are royal children who grow up believing that their empire is benevolent and creating the peace and prosperity for everyone. And the events that happen early on mean that the reality of that is not true. And they are suddenly exposed to the crimes of their empire. And the personal responsibility aspect is them having to figure out what they're going to do in response to that. I wish Americans would face similar things and respond more often than we do to our inheritance of our empire. Sorry, that's a long.
Oui, oui, tout à fait. En fait, Acacia, c'est pas exactement les États-Unis. Alors, je voulais aborder la question de la responsabilité personnelle. Donc, dans ma trilogie, il y a ces quatre enfants royaux qui grandissent au sein de l'Empire en pensant que l'Empire est bonté, paix et prospérité. Mais avec les événements qui se produisent dès le début, ils vont découvrir en fait que c'est complètement faux. Et ils vont découvrir la réalité de cet empire. Alors, la question que je voulais poser est comment ils vont réagir à cette réalité. Et c'est peut-être aussi que je voudrais quelque part qu'aux États-Unis, on se pose le même genre de questions que je soulève dans mon roman concernant la responsabilité de l'empire.
Je vais rassurer quand même David Durham, on se pose ces questions-là aussi dans d'autres pays que les États-Unis. C'est vrai, nos amis américains le savent, la France a tendance à donner des leçons partout, mais on sait bien qu'on n'est pas parfait. Revenons à la littérature après, mais vous avez bien compris qu'on parle d'assassins, de société, de violence, de morale. Donc on parle de politique. Vous voyez que la fantaisie, contrairement à ce que parfois écrivent un peu vite, je l'ai écrite en jeune, comme quoi on peut tous écrire des bêtises, la fantaisie n'est pas une littérature réactionnaire et apolitique par essence, quand la science-fiction serait toujours une littérature progressiste. On peut très bien se poser des questions d'éthique, de morale, d'avenir de l'humanité au travers d'un récit de fantaisie. La métaphore fonctionne aussi. C'est pas parce qu'un certain nombre d'auteurs de fantaisie ont été systématiquement des défenseurs de l'ordre qu'aujourd'hui on n'a pas dans le développement de cette littérature des auteurs beaucoup plus critiques. Et David Anthony Durham, c'est une des raisons qui fait qu'il est invité ici pour la deuxième fois déjà. C'est un de ces grands auteurs d'aventure. Donc là, vous aurez le plaisir de la lecture, d'être emballé, enthousiasmé, etc. Et il joue le jeu de la fantaisie du récit. Et c'est vraiment passionnant. Une fois qu'on est rentré dans Acacia, maintenant que vous avez les trois volumes, vous ne pourrez pas... Prenez-les, mais commencez à les lire au moment des vacances. parce que vous allez rentrer dedans et vous allez faire à la suite les trois volumes, vous verrez. Mais néanmoins, il y a un plus dans ces lignes narratives, il y a ces interrogations, il y a finalement la trace d'une vraie littérature où l'auteur est capable de se poser d'autres questions. On peut lire au premier degré, mais on y trouve aussi toute une série de lignes narratives et d'interrogations. C'est ce qui fait la richesse de sa fantaisie. C'est presque une réclame publicitaire, mais c'est mon enthousiasme de lectrice que je voulais vous faire partager. Heyerdahl, là, c'est beaucoup plus ancien, la rencontre entre nous. C'est vrai que ça avait mal commencé, d'ailleurs. Ça commençait par une engueulade par lettre. À l'époque, on écrivait des lettres encore. Je crois même l'avoir gardé dans mes archives. On a eu un échange. Et bon, la curiosité m'a amené à le lire. Et à ce moment-là, j'y ai trouvé des romans que, d'ailleurs, j'ai lus très récemment, ce qui est quand même un bon signe. Quand, 20 ans après, on reprend certains livres, on fait quand même que pour les livres qui vous ont beaucoup plu, donc vous gardez un souvenir et vous avez envie de voir est-ce que vous lisez pareil, est-ce que vous trouvez autre chose. J'ai donc relu trois récemment des romans de fantasy, des romans de science-fiction, pardon, de space opéra d'Heyerdahl, entre autres celui-ci, mais pas seulement, L'Histrion. Un petit passage, un assassin. Pour vous situer le passage, on est confronté à Emeline. Alors Emeline, I-M-L-I-N. C'est cet histrion, ce fou du roi en quelque sorte des galaxies, qui est utilisé, vu son statut un peu spécial, par, on va dire, une intelligence artificielle, un super ordinateur, appelez-le comme vous voulez, qui quelque part prépare un certain nombre de choses dans cette galaxie face à une crise qui se développe. On va rentrer dans les détails, vous découvrirez ça dans le roman, et va instrumentaliser, du moins il va tenter. Le problème, c'est qu'instrumentaliser quelqu'un qui est avant tout un individualiste aux réactions imprévisibles pour les autres, pas pour lui, mais pour les autres, ça n'est pas si simple. Et quand on bâtit tous ces plans autour d'un personnage aussi important d'une certaine façon, tout en étant à côté du pouvoir et surtout pas dedans, eh bien, on risque d'avoir des sacrées surprises et pas tout à fait le résultat auquel on s'attendait. Emeline, Yen, et Emeline, Yel, Ne, c'est un personnage qui donc change de sexe, mais c'est réversible, c'est sympa. Ça vous permet de mieux de comprendre l'autre sexe, manque de chance, c'est pas encore possible. Ça, c'est le miracle de la fiction. Il faut choisir, et si on change, c'est définitif, il n'y a pas de retour. En tout cas, ce personnage est un personnage qui, justement, à cause de cette particularité, de cette extraordinaire liberté, ce personnage se retrouve dans une situation de pouvoir voir les choses différemment, de faire un pas de côté, et donc, encore une fois, de jouer un rôle qui sera finalement celui que les circonstances et sa liberté l'amèneront à jouer, non pas celui pour lequel on l'a poussé, manipulé et destiné. Évidemment, ça crée des ennemis, même si on ne les a pas cherchés, d'être dans cette situation. Extrait. Ne faites pas l'imbécile, avertit-il quand Sissem se fut éloigné. J'ai mission de vous conduire à l'empereur ou de vous abattre. Cela dépend de votre coopération. À l'empereur, rien que ça. Emeline se décontractait, le danger le décontractait. Vous me prenez vraiment pour un con? Je suis héros, se justifia le spadassin. Donc, tout sauf une bombe ambulante, comprit subitement Emeline. Il compta un ricanement et le ceci explique cela qu'il avait failli répliquer. Un andre ou un néandre se fut sacrifié sans problème. Les androïdes et les cyborgs n'étaient pas regardants, mais les héros étaient humains, un peu mieux préparés à jouer leur vie que le commun des mortels, mais moins aptes à la perdre. « Je suis chez moi, » fit-il finalement, « au milieu des miens. » Les maraudes, un haussement d'épaule de ce héros-là, n'était sûrement pas un bon présage. « Je sais, je l'ai compris un peu tard, mais je l'ai compris. » C'est pour cela que j'ai soigneusement préparé cette rencontre. « Vous avez déjà eu d'autres occasions de me rater. » Emeline aussi savait jouer de ses épaules pour dédramatiser. Sissem revint avec le verre du héros. En le posant devant lui, il fit un clin d'œil à Emeline, puis s'éloigna pour faire le tour des maraudes disséminées dans la boîte. « L'ordre était de vous éliminer, » reprit le héros. Et votre réaction a intéressé mes supérieurs. Aujourd'hui, l'ordre est toujours de vous retirer d'Ignella, mais l'Empire envisage de vous offrir une meilleure opportunité que la désactivation. Se pouvait-il que le héros exprimât une vérité? Emeline avait besoin de précision. Je ne comprends pas. Nous pensons que vous feriez un héros convenable. Pas ça, cette histoire d'Ignella. Il pensait à un héros, pour qui me prend-il? La baronnie va changer de structure et de politique. Le héros ne semblait pas s'en émouvoir. Or, vous avez déjà causé pas mal d'ennuis à l'autorité. C'est vieux. 8 ans. Vous êtes assagi depuis. C'est vrai. Mais certains risques sont déraisonnables. Son affabilité se fit sérieux. Écoutez, Emeline. L'empereur ne passera pas l'année son héritier en tant que gouverné d'une toute autre manière. Je ne vous crois pas. C'est est indiscutable, définitif. L'autre leva les mains au ciel, l'air de dire « Libre à vous ». Vous avez tout de même le choix entre mourir et nous rejoindre, insista-t-il. Une scène avec l'assassin potentiel, mais un assassin qui visiblement préférerait ne pas exécuter cette partie de l'ordre, plus exactement le substituer à recrutement, en quelque sorte.
Oui, c'est très, très étrange pour moi, parce qu'en fait, le bouquin, il a 20 ans, quoi. Et je vais vous dire quelque chose d'atroce, je m'en souviens absolument pas. Même s'il a été réédité récemment, il se trouve que j'ai fait le choix, parce que depuis qu'il est sorti, ce bouquin, j'ai envie de le réécrire. Il fait dans les 600 pages et en fait, il aurait dû faire dans les 1200. J'ai pas fait le travail, je suis allé un peu vite. Donc j'ai cette envie très forte. Et pour ne pas perdre un an à réécrire un bouquin de cette taille-là, j'ai préféré ne pas le relire avant que l'éditeur le publie. Ce qui est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire, parce que ça se trouve, c'est café de fautes, c'est café de coquilles, etc. Donc j'ai pas joué mon rôle. Du coup, j'ai un peu du mal à répondre à la question. Je me souviens plus de cette scène particulière. Ou plutôt, ce que je garde en moi, c'est cette présence derrière Emeline, de système qui est en fait le véritable assassin. C'est le meilleur ami d'Emeline et c'est lui qui, à la tête d'un, comment on va appeler ça, d'une bande de truands, de pirates dans leur genre, est l'assassin qui protège Emeline et qui va le protéger. Donc j'ai le sentiment que en entendant la scène, il me semble que le héros qui est là pour recruter Emeline, certes, mais qui est là aussi pour éventuellement, en cas de refus, l'assassiné a conscience qu'il y a un assassin beaucoup plus efficace que lui dans l'entourage d'Emeline et qu'il risque sa peau à tout bout de champ. Donc c'est ce que dit Emeline, il me semble, au début. C'est très amusant parce que dans ce personnage, Emeline, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, il change un petit peu de personnalité quand il est sous une sexuation ou sous une autre. Il est en tout cas totalement non violent. Et son meilleur ami est lui un assassin, mais alors sans morale. Je veux dire, il n'a aucun regret ni remords à abattre qui que ce soit. Il suffit en gros qu'on se mette sur sa route, qu'on entrave ses plans ou qu'on touche à son ami Emeline, parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. Et voir éventuellement, comme ils ont tous les deux été à l'origine d'une révolution qui a foiré dans une baronnie, donc dans un empire. Il a même une conscience politique qui peut l'amener à se débarrasser de n'importe quel adversaire. Et c'était assez amusant pour moi, comme ça l'est dans la plupart de mes romans, de mettre en scène et en contradiction un personnage qui est non violent et qui jusqu'au bout restera non violent, ou en tout cas essaiera, et puis un personnage qui lui utilise de la violence comme nous on utilise d'un juriste. Ou d'un juriste ou d'un conseiller littéraire ou de, enfin bref, n'importe qui. Voilà. Et j'ai toujours fait ça dans mes bouquins. Je sais qu'il y a une relation très forte. C'est terrible de ne pas se souvenir de ces livres. On avait 20 ans, on avait un an. Il y a une relation très forte entre qui vient de ma propre personnalité, entre ce désir de non-violence absolue. Après tout, pourquoi nous mettrions-nous des paires de tartes alors qu'on peut très bien discuter et sans se mettre d'accord, se tourner le dos voilà. Et puis ce réalisme que j'ai appris probablement dans mes premières années de collégien, on ne fait pas de révolution sans casser des vieux.
Eh oui, c'est ça aussi, se poser la question de devenir un tueur. C'est compliqué, hein, ou ne rien faire. Compliqué, les questions de morale. Transparence, on en dit un mot, on arrive bientôt à la fin de ce café littéraire, mais 20 ans plus tard, hein, comme dans Le Vicomte de Bragelonne, c'est tout à fait différent. On n'est pas dans le space-op, on n'est pas dans les planètes lointaines, dans les galaxies. Il n'y a pas de cyborg, il n'y a pas de etc. Vous avez juste une héroïne. Qui est capable d'utiliser la transparence. Alors, c'est une terminologie, une idée que Roland Wagner avait utilisée avec un détective privé transparent, ce qui est très ennuyeux, évidemment, pour se présenter à quelqu'un et pour lui poser des questions, parce que l'autre ne vous voit jamais. Alors, il a un Borsalino fluo dans Roland Regner, le personnage, pour qu'on le repère. Donc quand il veut se faire repérer avant l'interview, même pour Salino Fluo, qui permet... Et donc c'est cette idée de la transparence qu'on retrouve de façon diverse dans quelques romans, que vous avez poussé particulièrement, puisque c'est une héroïne qu'on recherche, que piste un personnage, et qui en fin de compte arrive toujours à passer entre les mailles du filet, parce qu'à un moment donné... Personne ne la voit, alors qu'on devrait... Et la première scène du roman, je n'ai pas le livre sur la table, c'est dommage, j'aurais pu vous lire un extrait, c'est une sorte de scène de patinage artistique au milieu de la foule. C'est-à-dire qu'elle anticipe chaque mouvement, et en fin de compte, c'est... Alors, je ne vous dis pas, parce que vous verrez la fin de cette scène qui est plusieurs pages. Et c'est une... Oui, on a l'impression que c'est du patinage artistique, et... Ah bah, je ne vais pas vous révéler ce qu'elle fait. Mais voilà, elle échappe à ses poursuivants, et puis elle va agir comme elle doit agir. Et ce personnage, cette jeune femme, c'est une tueuse. Et quelqu'un repère, parce que personne n'avait fait le parallèle, qu'en fait, elle a des dizaines de cadavres derrière elle. Or, ça remonte à un traumatisme très ancien, je ne vais pas trop en révéler, et quelque part, on se rend compte qu'elle élimine des gens qui, en gros, l'ont mérité, même si on peut être contre la violence. C'est tout le paradoxe de l'écrivain. Ayad Alam dit toujours qu'il est contre la violence, mais il dit qu'il faut changer les choses et qu'à un moment donné, il faudra donner un coup de balai. Ça, c'est l'homme qui dit ça, l'auteur engagé. Et puis, dans ses romans, ces personnages, certains d'entre eux, sont très violents. Ou alors, comme Emmeline, finalement, se demande quand même, à la fin du roman, si ce nom violent n'est pas quelqu'un qui, finalement, est plus ambigu qu'il n'y paraît, que sa non-violence, c'est juste que lui ne le fait pas. Mais qu'il a comme amis ceux qui sont capables de faire le boulot à sa place. C'est toute cette ambiguïté. Et c'est la même ambiguïté qu'on trouve dans Transparence. On est dans un monde... à peine futuriste, hein, on est quasi dans l'actualité. Petit décalage, on est aux limites de l'anticipation et du polar, du thriller. Et finalement, vous nous présentez une tueuse en série, et qui est une jeune fille à laquelle on s'attache très rapidement. C'est très pervers, ça. Ayarda.
Oui, c'est très très pervers. Je l'ai même un petit peu fait exprès, en fait, puisque il se trouve que j'ai écrit ce roman et je l'ai ancré dans la réalité. Parce qu'en fait, il n'est pas futuriste du tout. Le roman se termine le 11 septembre, le 11 septembre 2001. Ça doit vous rappeler quelque chose, je pense. J'ai écrit ce roman parce que j'ai un ami qui s'appelle Cesare Battisti qui a été légèrement poursuivi par l'État français. Ça doit vous rappeler quelque chose aussi. L'État français, c'est un truc... non, vous voyez à peu près de quoi je parle. Pas du tout. Et je voulais montrer que, quel qu'ait été notre passé, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, et n'y voyez rien de religieux, enfin, pour la plupart vous connaissez suffisamment pour savoir qu'il n'y a rien de religieux là-dedans, la rédemption, le droit que nous avons d'avoir été quelqu'un et de ne plus l'être, de devenir quelqu'un d'autre. Donc, à travers ce personnage, Anne X, qui est effectivement un assassin, on peut dire même un tueur en série, je vais trouver le mot en anglais mais pas en français. Ça, je te laisse traduire. C'est un tueur en série, je veux dire, quand on en est. Bon, c'est un secret pour personne, au bout d'un moment, il va s'apercevoir qu'elle en a tué 1000, les mecs. 1000, ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas où est le record officiel actuellement. Si, je sais où il est géographiquement, mais je pense qu'il est à 600 et quelques morts seulement. Donc, c'est vraiment rien dans la réalité. Dans la fiction, on peut aller plus loin. Elle a d'excellentes raisons de tuer parce qu'elle a énormément souffert et que c'est devenu une mode de protection. Elle n'est pas psychopathe, elle est sociopathe. Elle reconstruit la société et elle la voit à travers un filtre d'un cynisme que ne partagerait éventuellement qu'un homme politique ou un journaliste.
Je vais juste intervenir en 30 secondes. Tuer 30 personnes, vous êtes un assassin. Tuer en 300 000, vous êtes un homme d'État.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je dois avouer que la première version de ça, je crois même que c'est un certain Sun Tzu qui avait le premier commis cette merveilleuse phrase. Mais en fait, elle est assassin et j'ai pris un... Parce que, quelles que soient les raisons qu'on ait tué, ça reste quand même un acte assez abominable. Et surtout quand on répète cet acte. Elle tue comme elle respire. Quand quelqu'un vous enquiquine, si même il se comporte avec vous d'un point de vue un petit peu agressif, dans le meilleur des, dans le pire des cas, vous faites une baffe, quoi. C'est pas... Non, ça va aussi vite. De toute façon, ça règle le problème de façon définitive. Voilà, donc, tout le jeu pervers de l'auteur a consisté petit à petit à
à faire que l'autre personnage, le personnage principal, le narrateur, qui est criminologue, découvre un petit peu sa personnalité et s'attache à elle, et s'attachant à elle, entraîne le lecteur à s'attacher à elle aussi. Je n'ai pas de retour de lecture, mais aucun, sur 120 000 remarqués, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Mais je n'ai aucun retour de lecture me disant « je n'ai pas aimé Anaïs. » Tous les lecteurs se sont fait flouer et finissent par aimer quelqu'un qui m'a empêché de dormir, qui a failli me rendre fou pendant que j'écrivais cette histoire, parce qu'un assassin multiple à ce niveau-là, c'est terrible. Voilà. J'espère qu'un certain nombre de mes lecteurs ont compris à travers ce personnage qu'il fallait d'une part accepter la rédemption des autres et d'autre part se poser des questions sur le regard qu'on a critique parfois de la violence. J'ai poursuivi Transparence par un autre bouquin qui s'appelle Résurgence, où là j'ai mis en scène un autre personnage qui est un assassin, mais lui c'est un assassin formé. Annick c'est un assassin parce que la vie lui a été douloureuse pour elle. Alors que dans Résurgence, Marx est un assassin qui au départ n'était pas du tout fait pour en être un, mais que la CIA a entraîné à devenir un assassin. Il est devenu un assassin et... Ah non, alors là, si j'en dis trop, ça va faire mal.
Oui, je crois que quelque part... D'abord, le temps passe, donc on va ne pas pouvoir aller plus loin. C'est une bonne façon de dire que dans deux minutes, on va avoir terminé. Vous avez vu, on a profité, c'est le dernier café avant le repas, donc on peut mordre un peu, alors que d'habitude, on doit s'arrêter à moins 10 ou moins 5. Mais avec trois auteurs aussi passionnants que ceux-là, on va en profiter un peu lâchement encore quelques minutes. Transparence, donc, un roman, vous avez bien compris, c'est un des grands romans. Il y a beaucoup de bons romans. Beaucoup de très bons romans, et là c'est un des très grands romans d'Ayerdal, mais je garde une affection toute particulière pour L'Istrion, qui est un des bons livres. Il a peut-être quelques défauts pour un spécialiste, mais sans doute pas pour un lecteur, et quelque part je reste avant tout une lectrice. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir Ayerdal, si ce n'est pas déjà fait, science-fiction, space-op, et un personnage tout à fait étonnant, L'Istrion, Transparence, l'avant-dernier roman d'Ayerdal, et Résurgence, qui est une fausse suite, puisqu'en quelque sorte on retrouve les personnages, mais c'est une histoire autonome, et etc., même si c'est mieux de lire d'abord Transparence et ensuite Résurgence. Je ne parle pas du prochain sur lequel il est en train de travailler, de faire lire quelques amis pour avoir quelques avis, quelques conseils, quelques critiques. Donc on attend avec impatience son prochain roman. Acacia, la trilogie de David Anthony Durham, de la vraie fantaisie d'action, l'intelligence et la culture en plus. Et puis, un magnifique livre pour entrer dans l'univers de Stéphane Beauverger, Le Déchronologue, livre couvert de prix. En particulier, tout récemment, le prix Imaginal des lycéens, qui a été décerné donc hier à Stéphane. Voilà, trois auteurs que je vous incite à lire. J'ai animé ce café littéraire. De toute façon, personne d'autre n'aurait pu l'avoir. Je me l'étais réservé parce que vous avez compris, plus Ellie qui, malheureusement, pour des raisons familiales, Ellie et Seriam ne pourra pas être parmi nous cette année. Parfois, il y a des drames familiaux de dernière minute. La santé et la maladie frappent. Hein, c'est des choses aussi et des difficultés. Donc, on l'excuse bien volontiers. J'aurais aimé aussi qu'elle nous parle de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Une série jeunesse tout à fait surprenante, avec là aussi des tueurs et des tueurs en série et encore plus en série que les 1000. Et on expliquera pourquoi. Ayerdal, David Anthony Durham, Stéphane Beauverger, précipitez-vous, ils vont tout de suite vous signer leurs ouvrages. Merci.
C'est un plaisir avec vous.
Je m'étais réservé parce que j'aime beaucoup vos livres.